Vous écoutez Rendez-vous Place du Marché sur France Inter à Bastia en Haute-Corse.
Aurélie Spèze, Rendez-vous Place du Marché.
Benvenuti a tutti sur la place du marché. Hier, vous étiez à Saint-Gervais-les-Bains avec Antoine Lee, en Haute-Savoie, et aujourd'hui, cap sur la Corse, ici à Bastia. Et plus précisément, au centre de gravité de la vieille ville, le Corsica Bar. Le Corsica Bar, c'est une perle rare. Dans ce petit troquet du quartier, rien n'a bougé. Les vieilles photos des copains, le comptoir en bois, le lettrage des années 60 et les chants corses des anciens qu'on se partage depuis toujours ici dans ce bar. Il faut dire que l'acoustique est plutôt bonne en terrasse. Bastia résonne dans ses ruelles de pierre et tout au bout là-bas, on voit le bleu de la mer. Et là, juste à l'angle du Corsica, derrière, c'est la place du marché gardée par l'énorme église Saint-Jean-Baptiste qui surplombe la ville. À Bastia, on ressent une force, comme des secousses, mais aussi une tiède torpeur. Il y a de la violence et de la douceur dans l'air. Et puis, il y a ces couleurs, safran, rouge, ocre. Et là, soudain, me revient mon passage préféré d'Astérix chez les Corses. Vous le connaissez, Jean-Yves, ce passage?
Ce parfum léger et subtil, fait de thym et d'amandier, de figuier et de châtaignier, ce souffle imperceptible de pain, cette touche d'armoise, ce soupçon de romarin et de lavande. Mes amis, ce parfum, c'est la Corse.
Merci, Jean-Yves. C'est bien joli tout ça, mais basta. En ce moment, à Bastia, on se bat. Et ici, on va parler avec des femmes courageuses qui s'expriment pour briser l'omerta. Et on va aussi se balader partout, apprendre le corse, chanter, descendre voir ce qu'il se trame sur le vieux port. Mais là, tout de suite, je me dirige vers mes invités attablés en terrasse. Bonjour Marie-France Giovanna Angeli.
Bonjour, bonjour à toutes.
Vous êtes directrice du Leroy Merlin de Bastia, mais aussi d'Ajaccio.
Oui, des deux magasins, mais ce n'est pas à ce titre que je suis là. Je suis au titre de Marie-France Giovannante. J'ai dit citoyenne engagée dans un combat contre la mafia au sein du collectif Amafiano à Huidaillé.
Bonjour Anaïs Mattei.
Bonjour.
Vous êtes étudiante et vous participez, vous, au mouvement I Was Corsica. C'est un peu le Me Too Corse.
Oui, c'est ça, exactement, pour briser du coup l'omerta, comme on disait tout à l'heure.
Et bonjour à vous, Jean-Michel Verne.
Bonjour.
Vous êtes l'arrière-arrière-petit-fils de Jules Verne. Vous êtes journaliste et vous avez publié récemment un livre témoignage qui s'appelle « Résister en Corse ».
Oui, et mon illustre aïeul a écrit une géographie de la Corse que peu de gens le savent. Et ce texte est extrêmement intéressant parce qu'il nous donne une vision de la Corse qui est quand même assez différente de celle qu'on a aujourd'hui.
Voilà, on est là, sur la place du marché de Bastia et sur France Inter, jusqu'à midi. On se retrouve le temps d'écouter quoi, Anaïs Mattei?
On va écouter le groupe La Femme qui chante Le sang de mon prochain. C'est le choix de Djoubaka.
Je suce le sang de mon prochain. Je sème la mort et la tempête. Je suis la vengeance et la haine. Et je vais là où le vent m'emmène. Je cherche le cœur de mes mamans pour y planter mes dents. Je t'emporte dans une autre vie, là-haut sous les étoiles d'une autre galaxie. Pour emporter les corps.
sais que j'ai tort de te faire faire ce sacrifice. Rejoins-moi dans les abysses, tu deviendras mon complice.
Bien sur France Inter et vous avez rendez-vous Place du Marché. Ici à Bastia, c'est la Haute-Corse et on est attablé à la terrasse du super bar, le Corsica Bar. Rebonjour Marie-France Giovanna Angeli.
Rebonjour.
Alors vous avez monté avec d'autres le collectif anti-mafia A Mafia No A Vita IE. Vous avez senti une urgence, celle de vous constituer en collectif pour briser l'omerta.
Alors, pour être tout à fait honnête, c'est dans le ton, ce n'est pas moi qui suis à l'initiative de ce collectif. Moi-même, j'ai été contactée par plusieurs personnes qui avaient décidé de s'organiser en collectif, dont Léo Battesti et Vincent Carlotti. Dès qu'ils m'ont appelé, j'ai donné une réponse positive immédiatement, parce que même si je n'avais pas consciemment réfléchi longtemps à cette question, il y a quelque chose au fond de moi qui ne tourne pas rond, il y a quelque chose qui m'angoisse, qui fait que je ne suis plus très bien chez moi et je ne savais pas trop à quoi c'était dû. J'ai compris quand on m'a posé cette question
pourquoi
je me sentais plus à l'aise en Corse.
Et alors pourquoi?
Mais pourquoi? Parce que même si je disais tout à l'heure à Jean-Michel Verne, c'est fou comme on s'habitue à la violence, au crime, au sang. Le journal qu'on ouvre le matin, ah tiens, encore un engin de chantier qui a brûlé, ah tiens, quelqu'un a été assassiné. Si on fait la revue de presse de ce qui se passe en Corse sur une année, mais on serait complètement affolé par le degré de violence qui sévit.
Concrètement, elle se manifeste comment dans votre vie, dans votre quotidien, cette violence ?
J'ai le fils d'un cousin germain qui a été victime d'une tentative d'assassinat il y a quelques années à Bonifacio. Depuis le mois de décembre, il y a eu 5 ou 6 attentats contre des entreprises qui sont liées directement ou pas au traitement des déchets, au traitement ou au transport des déchets en Corse. Et forcément, on est 320 000, on se connaît. Et puis, je pense que ça pèse beaucoup sur notre jeunesse, parce qu'elle se demande quel avenir elle a sur cette île. Est-ce qu'on peut encore y fonder quelque chose? Est-ce qu'on peut développer une entreprise? Est-ce qu'on peut créer quelque chose?
Est-ce qu'on peut avoir un avenir sans la mafia?
Nous, on est d'une génération où on a fait notre vie, mais pour cette jeunesse, je pense que c'est problématique.
Anaïs Mattei, rebonjour.
Rebonjour.
Vous êtes la jeunesse.
Oui, c'est ça.
La jeunesse de la Corse, vous êtes super chic. Hein, vous êtes très très bien habillée, avec des boucles d'oreilles toutes dorées.
Vous êtes magnifique. C'est très gentil, merci.
Vous êtes jeune, vous avez quel âge?
J'ai 23 ans.
Et vous faites partie du mouvement I Was Corsica. I Was Corsica, c'est le MeToo à la Corse.
C'est ça, exactement. C'est parti complètement des réseaux sociaux comme le MeToo, du coup, qui avait aussi commencé comme ça et qui a pris une ampleur assez incroyable en Corse. Enfin, on s'y attendait pas du tout. Et on a été vraiment stupéfaits de voir tout ça.
Qu'est-ce que vous avez subi ?
Des viols, des agressions sexuelles, du harcèlement. Quand on parle de harcèlement ici, c'est plus des gens qu'on va connaître, qui vont nous faire des réputations. Parce que ça, c'est un petit peu le propre ici, chez nous, les jeunes en Corse.
Tout le monde se connaît.
Tout le monde se connaît. C'est très petit, donc forcément, on va dire un prénom. On va dire, ah, elle, je la connais. Elle a fait ci, elle a fait ça. Donc c'est assez compliqué pour nous, en tant que femmes, surtout quand on est jeune, de vivre avec toutes ces réputations et ces reproches, en fait, qu'on a de la part des autres.
Et l'ambiguïté de tout ça, c'est que les agresseurs, vous les connaissez. C'est des anciens copains de collège, c'est des voisins, c'est des copains de copains.
C'est ça, on les connaît et puis on les recroise. On les recroise tout le temps. parce que voilà, comme vous disiez, c'est des copains, c'est quelqu'un de la famille, un ami de la famille, donc c'est, en fait c'est toujours quelqu'un de proche.
Donc briser le silence, casser cette omerta, c'est encore plus dur quand on connaît.
C'est très très dur parce qu'on a, on a le jugement en fait des autres, le jugement de la famille, parce que souvent ben en fait c'est un peu ça, il faut pas parler parce que on le connaît, il est gentil, si tu parles on va être pas bien avec sa famille ou avec ceci, avec cela, il y a toujours quelque chose en fait qui nous empêche de parler. Et là on le fait et tant mieux qu'on le fasse, et il faut se rendre compte que c'est le moment en fait. On peut plus rester comme ça dans le silence.
Vous en parlez dans le livre de Jean-Michel Verne, Résister en Corse, et vous dites dans le bouquin, quand vous dénoncez un agresseur, la famille vous le reproche.
Oui, c'est arrivé, ça nous est tout arrivé, mais particulièrement à une d'entre nous, Scarlett, où elle s'est fait carrément menacer de mort, en fait, par les parents de l'agresseur. Voilà. Et la mère de ce garçon-là la cherche depuis des mois dans toute la ville pour la frapper. Donc c'est quand même assez grave, ça va quand même très très loin. Donc après, on a eu des plaintes pour diffamation aussi. On en a eu 57, donc ce qui fait quand même beaucoup. On est, même quand on dénonce, on n'est quand même pas à l'abri. On est quand même menacé. Il y a des représailles. Voilà, tout l'été, on a été menacé. On s'est fait crever les pneus des voitures. Bon, c'est quand même assez dur.
Mais vous êtes super courageuses toutes les deux, parce que là, vous êtes deux femmes. Ça casse aussi les clichés, c'est-à-dire que c'est les femmes qui prennent la parole.
Bon, je pense que les femmes en Corse, elles ont pris quand même, au cours des dernières années, elles ont pris régulièrement la parole. Quand j'avais l'âge d'Anaïs, ça remonte, il y avait un mouvement féministe qui s'appelait Donegorce. Donc régulièrement, quand même, la parole des femmes revient. Dans le collectif Mafiano, on est nombreuses.
Vous avez peur ou pas ?
Non, si je dis je n'ai pas peur, ça va paraître prétentieux. Bien sûr qu'on a peur, on peut avoir peur de plein de choses. Et quand on se pose 5 minutes et qu'on réfléchit, on se dit oui, c'est dangereux. Mais pour autant, il faut le faire, il faut le faire.
Jean-Michel Verne, vous avez publié récemment « Résister en Corse ». C'est ce livre, un livre plein de témoignages sidérants, racontés à la première personne. C'est des nouvelles tragiques, des histoires vraies, racontées par des mères de village, des étudiantes comme Anaïs, des bergers, des fonctionnaires, une artiste. Et ça raconte la violence de la mafia qui subsiste aujourd'hui en Corse avec des intimidations, des menaces, des crimes. Et vous, Jean-Michel, vous utilisez le mot « mafia » sans hésiter.
Je dirais que j'utilise le mot mafia parce qu'il commence à s'installer en Corse. C'est vrai qu'il y a une noria de mafia en Corse. Il y avait une noria d'organisation criminelle. On pense à la Brise de Mer, on pense aujourd'hui à l'équipe du Petit Bar. Mais il y a quelque chose qui est en train de se développer dans l'île, qui est extrêmement inquiétant et qui explique la formation du comité Mafiano Vitae, qui s'est construit au travers de deux phénomènes. Premier phénomène, c'est l'apparition de juges en Corse en 2019.
Votre précédent livre ?
Le précédent livre qui a été, comme ça, un vecteur, un déclencheur. Et là-dessus intervient un deuxième événement en septembre 2019, c'est l'assassinat de Massimo Susini, militant écologiste qui s'était beaucoup impliqué notamment dans la protection de la zone de Bonifacio. Enfin, voilà.
Il s'est fait assassiner d'une balle dans la tête devant sa paillote.
Tout à fait, tout à Cargèse. Cargèse qui est vraiment un cluster criminel incroyable.
Et, ça a été un déclic.
Ça a été un déclic. Et à partir de là, on a commencé à se poser vraiment la question de l'existence ou non d'une mafia en Corse, ou d'un phénomène mafieux, ou d'une dérive mafieuse. Et je crois que la dérive mafieuse, elle s'infuse dans toutes les strates de la société corse. Si vous regardez un peu les événements, on a beaucoup moins d'assassinats. En revanche, on a beaucoup de marqueurs criminels mafieux. Je pense effectivement à ces incendies d'engins de chantier, à ces incendies de déchetterie. Pourquoi ? Parce que là, on est au cœur de la matrice de la mafia. C'est s'insinuer dans la vie civile. Et je crois que c'est ça qui menace la Corse aujourd'hui.
Je vais lire un extrait de votre livre, Jean-Michel Verne, Résister en Corse, de Giuseppe Maestracci. Nous sommes un joyau dans un écrin mafieux. Notre terre est merveilleuse. Tant de champs sont inexploités. L'étendue est immense. L'eau est abondante et le soleil est chaud. La question est de savoir quel projet nous voulons pour la Corse. Quand j'ai appris que Massimo Susini, dont vous venez de nous parler, a été assassiné, j'ai dit non. Non, tu ne tueras pas. Si l'on tue, c'est qu'il y a un intérêt caché à tuer. Je suis allée à l'enterrement spontanément, puis le comité anti-mafia est né. J'y ai adhéré. C'est un joyau dans un écrin mafieux.
Oui, c'est vrai que la Corse a tous les marqueurs positifs. Nature incroyable, déjà incroyable, une richesse, parfois un apaisement, parce que moi, à chaque fois que je prends le bateau pour venir ici, ma tension descend.
C'est ça, il y a une douceur, il y a quand même une torpeur.
Il y a quelque chose qui passe, une douceur, une torpeur, un plaisir de voir les gens, de discuter, d'être ici, à boire une ourette. Voilà, c'est formidable. On est loin des turpitudes, de la violence du continent aussi. Mais paradoxalement, on va se retrouver confronté à une autre violence, et souvent une violence morale, voire familiale. Et je pense que la Corse aujourd'hui, sa difficulté, c'est d'amorcer une sorte de virage, une sorte d'aggiornamento de la société corse, où elle pourrait abandonner un certain nombre d'archaïsmes. Alors, peut-être au travers du témoignage d'Anaïs, on voit cette difficulté, cette complexité des rapports hommes-femmes.
Justement, Anaïs Mattei, la place de la femme. Souvent, dans le bassin méditerranéen, on dit la femme, c'est elle qui domine à la maison, c'est la bosse. On parle de matriarcat en Italie, en Corse, en Espagne, un peu partout dans la Méditerranée. Mais la réalité, en Corse, c'est tout autre.
C'est vraiment l'image, en fait, qu'on donne et que tout le monde a, alors qu'au final, pas du tout. Et on le voit bien, comme je disais tout à l'heure, même au niveau des réputations, dès qu'une femme fait quelque chose, de suite, c'est quelque chose de mal, de grave. Elle peut pas, dès qu'elle parle, en fait, elle va être jugée de suite. Tandis que si c'est un homme qui le fait, bah, c'est pas si grave que ça, finalement. On le voit bien, même quand on... Bon, nous, parce qu'on est jeunes, ou quand on sort en soirée, deux garçons qui vont se battre, personne ne va rien leur dire. Par contre, un garçon qui va jeter un verre à la tête d'une fille, ça va être la fille la fautive. Ça m'est arrivé cet été, c'est moi qui me suis fait virer du bar, alors que c'est le garçon qui m'a agressée.
Ça, vous le racontez aussi dans le livre, quand vous étiez petite, en primaire, un garçon regarde sous votre jupe et c'est vous qui vous faites gronder.
Oui, 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 ça aussi. Et ça arrive souvent aussi dans les écoles, ma petite sœur aussi l'a vécu. On va toujours trouver l'excuse de « mais c'est un enfant, c'est pas grave ».
Je pense qu'il faut parler. Les gens parlent en Corse, attention. Il y a l'omerta, mais aussi on parle. Il y a les deux volets, je dirais.
Mais c'est la parole publique qui est... Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup. Vous parlez beaucoup entre vous. Off, sotto-voce. Ouais. Par exemple, la plupart des Corses nous disent « Mais vous avez raison, continuez votre combat. C'est vous qui êtes dans le vrai, mais n'osent pas franchir le pas. »
Et nous, avec notre micro France Inter, on est là pour vous le tendre. Et donc ça peut servir, non ?
Oui, c'est vrai que le rôle des médias est essentiel. Aujourd'hui, cette parole anti-mafia a besoin d'être relayée. C'est ce que fait le collectif Mafiano Vitae.
C'est ce que fait Anaïs avec I Was Corsica.
Et je pense qu'il y a des mécanismes extrêmement...
Ancestraux.
Ancestraux. Des fois, on n'aime pas voir, on tourne la tête. C'est-à-dire, on laisse faire, on ne regarde pas et on ne veut pas savoir. Je ne veux pas savoir. Il y a encore hier, un avocat qui m'a dit, on parlait d'organisation criminelle, mais il dit, je ne veux pas savoir.
Marie-France, Anaïs, je vous embrasse.
À très bientôt et bonne suite à cette émission.
Merci à vous, France Inter, et à bientôt.
À bientôt, je vous laisse au Corsica Bar et moi, j'embarque. Jean-Michel Verne, vous venez avec moi. Et bonjour Jean-Yves Casalta, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes arrivé au bar, vous nous avez rejoint.
Je suis venu vous rejoindre, tout à fait, avec beaucoup d'enchantement.
Vous êtes prof de Corse.
Alors je suis prof de Corse et également très investi dans le milieu culturel. Je fais partie d'un groupe de chant qui s'appelle Diana di l'Alba et d'une association qui s'appelle Furamos, dont le but est le doublage de films et de dessins animés en langue corse.
Ça c'est bon. Vous avez doublé Terminator 2.
Oui, entre autres choses.
En Corse.
Exactement.
Allez, venez, on s'avance tranquillement vers le marché.
Oui, et on voit combien cette ville est agréable et combien elle est chargée d'histoire. Il y a quelque chose qui s'infuse là, qui nous fait sentir l'Italie. Moi, je la sens. Je sens ce vent-là qui vient de l'autre côté de l'île d'Elbe. Là.
Alors, c'est un marché qui est plutôt calme. C'est pas les marchés à la criée, avec la poissonnière
Bah, ça existait aussi, hein, c'était ici comme ailleurs, je dirais, les criées se pratiquaient, même en langue corse en plus. Malheureusement, c'est des générations qui sont passées, et aujourd'hui, c'est vrai que, bon, on dira qu'il est plus soft, plus tranquille, on déambule dans les stands, et malheureusement, c'est une tradition qui s'est perdue.
Ouais, ça vous le regrettez, Jean-Yves Casalta ?
Je regrette, parce que c'est quand même la vie, hein, les gens qui crient comme ça, c'est bon, il y a quand même, hein, la vie, attention, hein. Mais il y a un petit truc en moins.
Migliacciole, ça c'est des... Le miatch, tout ça sont des spécialités bastiaises, il y a des spécialités par région.
Fritelle corse.
Fritelle corse. La cuisine permet de repérer aussi les origines.
Alors, les miatchi, je me permets, c'est pas que Bastiais, parce qu'on le retrouve quand même dans le nord de la Corse de manière assez générale, hein, aussi. Ce qui est spécifiquement Bastiais, on pourrait dire, ce sont les beignets que l'on fait à la Saint-Joseph, pour la fête de la Saint-Joseph, la Saint-Dizé. Ce sont les panzarotti, mais ils sont faits avec de la farine de pois chiche.
Ça l'a bien calé quand même. Hein.
Ah non, c'est délicieux. C'est délicieux. Alors, ils sont roulés dans le sucre.
Et c'est alors, régime corse.
Ah ben, de temps en temps, il faut se permettre quelques folies. Donc, il faut venir pour la Saint-Joseph au mois de mars. Tout le quartier de Saint-Joseph est en ébullition.
On va les goûter, on va leur demander si on peut goûter. Vous croyez qu'ils vont nous faire goûter ?
Oui, pourquoi pas.
Ça va être sympa avec France Inter.
On espère. Hein. Bon, moi, je ne peux pas en manger en ce moment, j'ai du cholestérol. Donc,
bonjour. Là, vous êtes en train de faire des fritelles.
Des miatcholes.
Des miatcholes, c'est pas des fritelles. C'est quoi les fritelles ?
Les fritelles, ce sont les beignets qui sont à côté, là-bas, comme on collecte.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est une base de pâte à crêpes, on dira, avec du fromage frais à l'intérieur.
Vous vous appelez comment ?
Nicolas.
Moi, c'est Aurélie. Et c'est une entreprise familiale ?
Oui, en grande partie familiale, oui. On est beaucoup en famille.
C'est pour moi ?
Oui, tout à fait.
Merci beaucoup, je goûte. Ça coûte combien ?
1 euro pièce.
C'est bon, je peux le prendre comme ça ? C'est offert ?
C'est offert. C'est offert à vous et à France Inter.
Vous êtes sympa. Comment on dit merci en Corse ?
Beri grazie.
Beri grazie.
Di nulla.
C'est super bon, hein ? C'est une tuerie. Vous connaissez Jean-Michel ?
Bien sûr. Bien sûr, c'est délicieux. Moi, je suis très baigné, donc c'est... Là, je suis en addiction, quoi.
Total.
Total.
Moi aussi, je suis très baignée. Hein. Et votre arrière-arrière-grand-père, Jean-Michel Verne, Jules Verne, est-ce qu'il était baigné ?
Alors ça, je ne pense pas, parce qu'il avait pas mal de problèmes digestifs. Et il en a souffert toute sa vie, d'ailleurs.
Comment vous savez ça ?
Parce que ça fait partie de son histoire aussi. Et à un moment, il ne mangeait que des soupes. Et donc, je ne pense pas qu'il a dû manger les miatcholes.
C'est fou d'être l'arrière-arrière-petit-fils de Jules Verne. Enfin, je dis ça, mais comment vous portez cet héritage ? C'est quand même... C'est pas rien.
Ben, je le porte par l'écriture, manifestement. Il y a quelque chose qui se passe de l'un à l'autre. On communique un peu de temps en temps, si je puis me permettre. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup interpellé, cette géographie de la Corse.
Qu'est-ce qu'il aimait particulièrement, Jules Verne, dans cette Corse ?
Bah, lui, manifestement, ce qu'il appréciait beaucoup, c'était la mentalité des gens, le sens de l'honneur, le sens de l'identité, je dirais. Et il parle de la Corse et des Corses en termes très laudateurs.
La mentalité corse. On en a parlé hier soir, quand je suis arrivée ici à Bastia. Et quand on est arrivé hier, je me suis baladée dans ces petites rues, je suis allée vers le Corsica Bar et j'ai entendu du chant. Parce que ça chante partout à Bastia. J'ai entendu des jeunes chanter au loin et je suis allée les voir.
France Inter. Rendez-vous place du marché.
J'ai envie de dire olé, mais.
Vous pouvez le dire. Olé !
Des petits bruits comme ça. Yéhi ! Il y a tout qui passe là.
Ça
tout
met
qui
passe.
C'est ça.
Et alors je suis arrivée de la petite rue là-bas derrière qui va du vieux port jusqu'à la place du marché et je vous ai entendu chanter de loin. Souvent vous vous retrouvez comme ça, les jeunes, à chanter.
Et on chante, c'est ça. Entre nous, tranquille. Avec les vieux.
Comment vous vous appelez vous ?
Moi je m'appelle Yaya. Monsieur Yaya. Yaya.
Monsieur Yaya. Et vous avez quel âge ?
Moi j'ai 16 ans. Je suis un jeune enfant.
Un jeune monsieur.
C'est ça.
Et vous, vous appelez comment ?
Paul.
Quel âge ?
16.
Matteo, 17 ans.
17, 16, 16, 17, 40, vous êtes le papa, quoi. Hein, vous êtes le parrain, sans mauvais jeu de mots.
Oui, oui, c'est ça.
Donc, en général, vous vous retrouvez ici, au Corsica Bar, et ça chante, et ça chante.
Exactement, c'est ça. Ça a toujours été comme ça.
Monsieur Yaya, qu'est-ce que ça veut dire de chanter comme ça?
Déjà, ça nous fait passer le temps, ça nous fait plaisir, parce que c'est une passion, le chant, la guitare, la musique, en soi. Et c'est aussi un apport culturel. Voilà, on fait revivre un peu les anciennes musiques, les chansons qui s'oublient, parce que plus grand monde n'écoute ça, malheureusement. Donc nous, on est là pour essayer de faire vivre cette culture de la musique corse.
La chanson traditionnelle corse, c'est pas pour les anciens, quoi. C'est aussi un truc de jeunes.
C'est surtout pour les jeunes.
Parce que moi, je me disais, quand on a 16-17 ans, on n'écoute pas de la musique traditionnelle, on écoute du R&B, on écoute du rap.
Vous êtes trompé.
Complètement trompé.
On écoute de tout, attention. Hein.
Qu'est-ce que vous aimez comme musique? Il y a quoi dans votre téléphone? Il y a quoi dans votre playlist?
Moi, dans mon téléphone, il n'y a que des musiques corses. Il y a du rock aussi.
Du rock corse?
Non, du rock anglais, English. Je ne comprends pas un mot, mais j'aime bien. Il y a un peu de ZZ Top, ACDC, Scorpion, Sting. Ça me donne du peps le matin.
Est-ce que chanter des chansons corses, c'est bien pour draguer les filles?
Ouais.
Ouais, ça marche. Les petits fast time le soir, et vous avez la fille comme ça en train de s'endormir, et moi je suis là en train de jouer des petites musiques. Et ça marche, elle s'endort. Et après, le lendemain, ah, je me suis endormi avec ta musique, trop bien. Et moi je fais, ah, j'avais pas vu que tu dormais, alors que je savais, je suis malin.
Qu'est-ce que vous voulez faire, vous, plus tard?
Musicien.
Ingénieur en mécanique, Formule 1 ou MotoGP.
Bien quand ça va vite.
Eh, azaï, hein.
Ça veut dire vous le savez, c'est une expression.
Azaï.
Voilà, azaïdou.
Qu'est-ce qui vous réunit tous? C'est la musique, en
ça.
Fait.
Eh, ouf, c'est tout qui nous réunit.
C'est ça, l'esprit corse. C'est d'être content quand on chante tous ensemble, on se rencontre. Là, on ne devait pas se rencontrer, on s'est vu comme ça dans la rue et on s'est...
Et vous êtes dit, allez, on chante.
Ouais, on a vu comme ça la guitare dans le bar, du coup, on l'a prise et on a commencé à chanter.
Comment on dit gros bisous en Corse?
Et ciao à tutti, et boj.
Ciao frade.
C'est ça, exactement.
Et ciao frade. Ciao ragazzi.
Le jour va bientôt se lever. La baie de Calvi, je lève mon verre, le cœur gros, aux frères, aux amis de une amie attend son bébé. Au cœur de la citadelle qui passe le ciel de
des places du marché Inco Aurélie Sfèze dans ta France Inter, Bellazigour.
On est bien sur France Inter et on est bien ici à Bastia, en haute Corse, très très haute cette Corse. Et vous venez d'écouter Jacques Higelin, c'était la balade de Tao et c'était toujours le choix de notre ami
Djoubaka.
Voilà, Djoubaka, vous le dites très très bien. Jean-Michel Verne, Jean-Yves Casalta, on a traversé la place du marché de Bastia et on se retrouve devant l'église. Cette énorme église, Saint-Jean-Baptiste de Bastia, on dit
Saint-Jean, San Giovanni. Saint-Jean-Baptiste, San Giovanni. En fait, on raccourcit à San Giovanni.
C'est voilà. La plus grande église de l'île, la plus grosse.
C'est la plus grande de Corse, effectivement. Elle a été construite au XVIIe siècle.
Avec ses deux campaniles.
C'est la seule de Bastia, d'ailleurs, effectivement, qui possède deux clochers qui sont plus tardifs, qui ont été construits au XIXe siècle.
Elle est imposante, on a l'impression presque qu'elle écrase la ville.
Ah, elle écrase de sa beauté.
Et vous nous avez rejoint, Francesco Berlanghi, bonjour.
Bonjour, salut à tutti.
Salut à tutti. Vous êtes là avec votre blouson en jean, vos lunettes de soleil, on dirait que vous avez 25 ans.
Mais c'est à peu près ça, un petit peu moins, 24.
24, ouais. Ça va, vous êtes en forme?
Oui, ça va. Ça va aller.
Bon, vous êtes musicien, musicologue, ethnomusicologue.
Musicologue, ethnomusicologue et d'autres casquettes encore, mais bon, passons.
Et vous faites partie d'un groupe qui s'appelle...
Arigoukade.
Ça veut dire les mélismes, les ornements.
C'est ça, les ornements vocaux et que l'on fait lorsqu'on chante et qu'on va enjoliver un petit peu la mélodie.
Vous n'êtes pas venu tout seul là ?
Non, je suis venu avec mes comparses là. On est venu à quatre.
Vous êtes tous les quatre, vous êtes arrivés d'où ?
Oh, d'un peu de partout, du Cap Corse, de Moriane, de Bastia, enfin un peu de partout.
On est au pied de l'église, on est sur les marches de l'église, ça vous dit qu'on rentre ?
Ah bien sûr, bien
la messe
sûr.
Est finie, profitons-en.
La messe est dite. Était Missa Est.
Allez, venez, on va tous rentrer. Jean-Michel Verne, Jean-Yves Casalta, Francesco Berlinghi et ses copains. On rentre dans l'église Saint-Jean-Baptiste. Comment vous pouvez la décrire, cette église ?
Je dirais de style néo-baroque. Néo-baroque, mais c'est un mélange. C'est un peu gothique aussi, dans les hauteurs, dans les ouvertures. Enfin bon. Oui, elle est assez originale, effectivement. En tout cas, elle est...
On a l'impression qu'on est plus dans une cathédrale voilà. Que dans une église.
Tout à fait.
On va rejoindre vos camarades là-bas.
On y va.
Parce que vous allez chanter dans l'église.
On va chanter dans l'église. C'est peut-être pas l'endroit idéal pour chanter, mais bon.
Alors, vous voulez un autre endroit ?
Oh, on va se mettre sous la voûte, on va chanter là-bas.
Ouais, on se met dans la petite chapelle qui est là. L'église, c'est l'idéal pour la polyphonie.
Ah oui, pour la polyphonie, c'est l'idéal, parce que... C'est de la musique a cappella, ça veut dire qu'il n'y a pas d'instrument et que donc il faut vraiment des endroits où ça résonne parce qu'il n'y a que la voix et donc il faut un peu de soutien.
Vous êtes quelle voix ?
Moi, dans ce chant-là, je suis basse.
Et vous, monsieur ?
Basse aussi.
Et vous ?
Seconde ou terce.
Donc c'est l'équivalent de ténor ?
Oui, plutôt ténor. Oui.
Et vous, monsieur ?
Moi, je suis seconde et terce aussi. Mais...
Donc on va dire deux ténors et deux basses.
C'est ça.
Et qu'est-ce que vous allez chanter ?
On va chanter le chant 26 de l'Enfer, de Dante, et le chant 2 du Purgatoire, toujours de Dante, de la Divine Comédie de Dante. Puisque nous sommes aux 700 ans cette année, du 700e anniversaire de la mort de Dante, que Il Sommo Poeta a disparu.
C'est parti pour le Purgatoire.
Et
nessun ha fatto oltraggio. Se che creva come cui li piace, più volte ha negato e sto passaggio che di giusto voler lo si va.
Francesco Berlinghi, qu'est-ce que ça veut dire chanter ensemble? À quoi ça sert?
Ça veut dire que les endroits où on chante en polyphonie, généralement, c'est parce qu'on a une vision du monde particulière.
Laquelle?
C'est-à-dire que ce sont des cultures où le partage est important, où l'entraide est importante. Donc on fait des choses en commun. Et même quand on chante, on le fait en commun.
Ça soude une amitié,
oui, mais c'est les deux.
Ça soude une société.
Ça soude une amitié, et en même temps, l'amitié permet de créer des liens musicaux, comme on le fait là. Hein. C'est à la fois dans les deux sens. C'est assez particulier. Et dans les îles, on chante en vertical, comme ça. On place la musique verticalement et on les chante, vous voyez, en se regardant face à face.
En cercle.
En cercle, et voilà. Je pense que ça fait partie des choses qui me sont indispensables. C'est vital, bravo madame, c'est vital.
C'est vital.
C'est dans le corps, oui. Ouais. C'est dans le corps, c'est dans l'âme, c'est dans l'esprit. C'est dans le cœur.
On va s'asseoir un tout petit peu.
C'est une bonne idée.
Venez Francesco et venez Jean-Yves, on va parler un tout petit peu de langue. On s'est assis comme à la messe, hein, Jean-Yves, oui. Casalta.
Oui.
Vous avez écouté Francesco. Ah oui, à part Francesco qui fait dos à l'hôtel. Hérétique, Jean-Yves Casalta. Professeur de Corse, vous avez écouté la polyphonie de Francesco et ses amis. Mm-hmm. En langue corse, la langue, c'est de la musique.
Il y a une musicalité dans la langue, hein, bien sûr. Et puis, dans toutes les langues latines en général, surtout du bassin méditerranéen. Et effectivement, l'accent tonique, peut-être, la position des accents toniques, finalement, souvent, elle guide l'écriture lors de la création d'un chant. Donc, ça permet finalement de, après, par la suite, sans doute, en fonction de la musique qu'on veut y adjoindre, de cadencer peut-être. Donc, la langue, oui, elle guide, je pense que c'est un guide dans la musique, bien sûr.
Vous, Jean-Yves Casalta, vous avez décidé d'enseigner le corse, vous avez décidé de vous réapproprier cette langue corse que vous n'aviez pas apprise à la maison. On ne parlait pas corse dans votre famille, et pour vous, ça a été essentiel de vous reconnecter avec cette culture et avec cette langue.
Alors, pas tout à fait. On parlait corse aussi dans ma famille, mais moi, je fais partie d'une génération où on parlait pas tellement corse aux enfants. C'était plutôt ça, en vérité. J'entendais le corse quand mon père parlait avec ma grand-mère ou ma grand-mère avec sa sœur, etc. Donc, on entendait toujours le corse, mais nous, on nous parlait en français. Parce que, sans doute, avait-il intégré l'idée que le corse, ça servait pas à grand-chose. Au final, il fallait mieux parler français. Et c'était des générations où, pour pouvoir travailler dans l'administration, dans l'armée, dans les colonies à l'époque, il fallait parler... français et uniquement français.
Jean-Yves Casalta, pour vous, parler corse, c'est une forme de complétude. Sans le corse, il vous manque un bras, c'est ce que vous m'avez dit hier.
Oui, ça fait partie de notre être complètement. Souvent, chez les jeunes, lorsqu'ils ne parlent pas corse, enfin moi en tout cas, je sais que ça a été mon cas, et beaucoup de ma génération, hein, c'est plutôt après vers l'âge de 16 ans, 17 ans, enfin quand on rentre en lycée, que finalement on a un sursaut, un réveil. On prend conscience de tout un patrimoine dont on a été privé au final.
Est-ce que vous pouvez me donner un petit cours de corse, Jean-Yves ?
Oui, ça va pas être évident en quelques minutes, mais on peut commencer si tu veux. Alors, le corse, d'abord, dans ses origines, c'est une langue latine, évidemment, du bas latin, qui a surtout pris ses marqueurs à la fin du Moyen-Âge, comme la plupart des langues romanes. Et puis,
c'est un mélange de quoi et de quoi ?
Bon, allez, pour
rapidement.
Rapidement, on dira que c'est de l'ancien toscan, pour beaucoup de choses. Des traces de Ligure également, puisque là, il y a eu les Génois. Mais ce qui a surtout marqué, c'est quand même le Toscan. La période pisane, elle a quand même été déterminante.
On sort de l'église.
Le corse est une langue qui fait partie du groupe italo-roman. C'est-à-dire que moi, lorsque je pars en Italie, et ça m'est souvent arrivé avec ma femme, lorsqu'on parle en Corse, entre nous, on parle tout le temps en Corse, les gens ils viennent et nous demandent souvent « Ma dove siete ?» Mais ils ne nous posent pas la question dans le sens « De quel pays étranger êtes-vous »
De quelle région
Parce qu'ils voient bien qu'on est tous, mais de quelle région d'Italie êtes-vous? C'est un peu de Genovese, un peu de Sardo, un peu de Napoletano, un peu de Toscano. Pour eux, il y a un peu, c'est un mélange de tout, le Corse. Voilà, c'est une synthèse un peu de toutes les langues d'Italie. Attention à la voiture.
Où est-ce qu'il est, le Corsica Bar? Il faut qu'on y retourne, je suis paumé. Hein. Allez, venez, on va par là.
Rendez-vous Place du Marché. Aurélie Sfèze sur France Inter.
Jean-Yves Casalta, vous avez doublé Terminator 2 en Corse.
Oui, alors en fait, on a une association qui s'appelle Fioramos. Et le but de cette association, effectivement, c'est de faire de promouvoir la langue corse à travers des doublages audiovisuels. Notre public cible, c'est surtout les enfants, les jeunes. Donc on a fait beaucoup de dessins animés. Mais on s'adresse aussi après à toute la société. On a fait effectivement le film Terminator 2 de James Cameron en langue corse.
Vous êtes choisi ?
Non, je ne suis pas choisi, je n'ai pas la voix pour.
Vous êtes qui, hein ?
Alors moi, je suis un Mexicain dans le film qui est trafiquant d'armes et qui aide John Connor et le Terminator à se réarmer, on dira, pour aller accomplir leur destin.
Vous pouvez me le faire ?
Mi chiamo Enrique Sarceda e se tu voli ti posso parlare corso con l'accento messicano, ma...
Donc on le fait parler avec l'accent mexicain, parce que le personnage parle tantôt en espagnol, tantôt en corse, évidemment. Et il garde évidemment son accent. Alors on ne marque pas trop l'accent non plus parce qu'on ne veut pas tomber dans la caricature. Mais il fallait quand même que le personnage soit typé, hein, parce qu'il est typé dans le film. Et donc on a voulu garder ça dans le film.
On va se diriger vers le Vieux Port parce qu'on a rendez-vous avec une figure de Bastia, Hubert Tempête. Vous le connaissez ?
Oh oui, bien sûr, oui.
Qui ne connaît pas Hubert Tempête ? C'est la vraie question.
Toute la Corse, on le connaît.
Toute la Corse.
Ah oui, il est mondialement connu en Corse.
Rise, thunder in the skies, and the waters rise.
side to side. Now the water's rise. Love is in the skies. Now the water's rise. On the plank for the lost I die. For the ore and roll. To the pole we go. Take the ore and roll. Climb aboard for the gale will blow.
Et Mascourta à Pis Facini et Ben Harper, All's Aboard.
France Inter. Rendez-vous place du marché. Aurélie Spez.
On se dirige vers le vieux port.
Ouais.
Et vous nous avez rejoint, Hubert Tempête.
Voilà.
Coucou.
Coucou.
Hubert Président. Hubert Président.
Alors là, Hubert Président.
Non, et alors.
Vous êtes hyper connu ici à Bastia, Hubert Tempête.
Mondialement connu. De toute façon, il y a trois personnes. Encore, c'est à eu Napoléon, Pascal Paul et Hubert Tempête.
Et voilà. Vous connaissez par cœur le vieux port de Bastia,
ah,
vous?
Oui, ouais, bien sûr. Ouais.
C'est votre domaine ici?
En principe, oui, j'ai vécu enfin, toute une vie. Hein. J'habite plus ici maintenant, mais j'ai passé toute ma jeunesse. C'était heureux comme des poissons dans l'eau.
Et vous, qu'est-ce que vous avez fait dans la vie? On m'a raconté plein de choses sur vous, que vous avez chanté dans les cabarets.
J'ai commencé à 12 ans, je distribuais les journaux dans les bureaux de tabac. Je me levais à 2h du matin, j'avais ma mère et regardait la fenêtre pour vous, parce que je disparaissais par là. Et après, à 14 ans, j'ai appris un métier, vitrier, miroitier. J'ai fait 10 ans. Après, je suis rentré dans les PTT, 12 ans. Pour être titulaire, il fallait passer un examen et mettre les S dans les pluriels, vous voyez.
Ah oui.
Mais c'était un métier, le pâteur, parce que lire une lettre et la mettre dans une boîte, vous savez, c'est dur. Hein.
Vous êtes un petit rigolo. Et alors vous, votre spécialité?
Non, c'est la vérité.
C'est la vérité.
Ah, je vous jure, c'est la vérité.
Pourquoi c'était si dur?
Il y avait 40 tournées à Bastia, je les connaissais toutes. Au bout de 12 ans. Non, mais c'est pas des blagues.
Donc, vous connaissez toutes les boîtes aux lettres de toutes les maisons qu'on voit là?
Maintenant, parce que ça fait longtemps que j'ai quitté. Hein.
À l'époque, vous connaissiez tout Bastia.
Tout Bastia, même le nom des chiens, des fois, j'ai... Non, mais c'est vrai.
Comment on peut le décrire, ce vieux port? Qu'est-ce qu'il est beau, hein?
Si on enlève, moi, j'appelle ça la banquise, là, avec les pingouins qui arrivent.
Les pingouins, si c'est les bateaux.
Si on enlève ça d'ici, c'est une merveille.
C'est une merveille.
Ah ouais, mais si vous enlevez tous ces bateaux. Hein.
Ah, même les bateaux, moi j'aime bien.
Ah non, non, mais les bateaux qui en est, oui, mais pas comme ça. Ils bloquent tout, on ne voit rien.
On voit les maisons de toutes les couleurs, on dirait un dessin d'enfant. Elles sont oranges, jaunes. Comment vous pouvez les décrire, toutes ces maisons, autour du port qui forme un cercle?
Elles doivent avoir une âme,
ah oui,
d'après moi, ouais. Elles ont une âme, parce que moi, j'ai froid dans le dos quand j'arrive là. Parce que c'était toujours la fête, on était heureux, on n'avait pas de sous, mais on était heureux. Et les gens s'amusaient, les gens cédaient. Et ma mère qui chantait, faisait le ménage, elle chantait. Moi, au moins de rien, on faisait la fête, c'était la joie de vivre.
Et aujourd'hui, c'est moins la joie de vivre?
Non, c'est pareil, moi je continue, je suis comme avant.
Vous continuez à chanter?
Ah, je chante, ouais.
Allez.
Quand je rentre chez moi, dès que j'ouvre la porte, avec ses deux canons, la voilà qui s'emporte. Elle casse une assiette, elle a tout le temps les nerfs en compote. Elle me fait des reproches, elle dit que j'ai une maîtresse, et fouille dans mes poches pour trouver son adresse. Et quand elle part en crise, je dis sans cesse, calme-toi, 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 calme-toi. Calme-toi quand tu mets la pagaille. Calme-toi, il n'y a que Mailleux qui maille. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Etc., etc.
Vous êtes le roi de la parodie, Hubert Tempête.
Ouais. Et puis, les textes, je ne les compose pas, la musique. Je me les prends.
Vous en faites des blagounettes. Hein.
Et je mets des paroles dessus, comme ça, ça m'évite de... J'ai fait Serge Lama, Aznavour...
Vous ne m'avez toujours pas dit pourquoi Tempête. Hein.
Ah, voilà. Et
pourquoi vous appelez Tempête, Hubert Tempête ?
Eh bien voilà, c'est un surnom que j'ai eu quand j'avais 10 ans.
Ah bon ? À cause de quoi ?
À cause que mon père était pêcheur, on habitait là, vous voyez la maison jaune là-bas.
Ah, la petite maison jaune au bout du port ?
On habitait là, je suis né dans celle-là, vous voyez, celle qui est la délablée là.
Ouais.
Il y a la terrasse maintenant, mais avant il n'y était pas la terrasse, vous voyez, il y avait les fenêtres. Et j'ai ouvert les fenêtres, j'ai crié « Tempête, tempête !» Et le lendemain, la tempête a eu lieu. La fatalité. Et les gens dehors, là, ils disaient. Et c'est la vérité, hein, je jure.
Ah, mais il vient de dire « Tempête, tempête !» Moi, j'ai peur pour demain. Hein.
Et... Non, demain, il va faire très, très beau.
Les gens, ils disaient « Mi, mi, tempête, mi, tempête !» Et mon premier gala, à la Rinille, là, c'était mon premier gala en 73, avec mon nom « Tempête ».
Oh, Tempête, moi j'adore Tempête.
Il me dit, qu'est-ce qu'on met Hubert, Barbaggio, Tempête, qu'est-ce que tu veux. J'ai dit, mettez comme vous voulez, on met Tempête. Et ils ont mis Tempête à la Rinille, il n'y a personne qui est venu.
Et bonjour vous, Pierre-François Maestracci.
Bonjour.
Vous êtes brasseur.
Brasseur de bière.
La bière corse, la Ribella.
Oui.
Et vous en avez amené.
Oui, on a amené une petite partie de la gamme.
On va se faire un petit apéro, avec modération.
Toujours avec modération.
Et donc, là, on en a plusieurs. On a la Ribella avec la sirène.
La Saletcha.
On a
la sale...
l'Inferna, tabac, piment, gingembre.
Mais c'est à chaque fois, à chaque fois, par exemple, l'Inferna, tabac, piment, gingembre, en réalité, c'est l'herbe à tabac, c'est le tabac corse qui était fumé par les anciens. C'est du piment planté en Corse, gingembre également. C'est une noire, donc bière noire.
Il y a la fille de joie.
La fille de joie, c'est la dernière année. C'est fait avec de l'abricot corse d'un producteur local, Luciani, et du romarin qui est pris sur nos propriétés.
Il y a l'immortale. Il y a la mystique.
La mystique à la farine de châtaigne corse AOP. L'immortale, qui est une blonde à la fameuse immortelle de Corse.
Venez, on va déguster une Ribella. Vous prenez laquelle ? Moi, je vais goûter la mystique à la châtaigne.
Ah oui ?
Moi aussi, la châtaigne. Ah,
oui. Champ 26, l'Inferno.
Vous, vous êtes dans l'Inferno.
Ah oui, moi, c'est...
Francesco Berlinghi, vous, c'est l'enfer, on l'avait compris. L'enfer. Alors, à quoi on trinque ?
À salute.
À salute, à quoi on trinque, Jean-Michel ? À quoi on trinque ?
À la bane.
À la bane, c'est quoi ?
À l'avenir.
À l'avenir.
Ma, à la bane, non t'as un sol qui est déjà tracciato, hein, t'as voyons pizzi. Sur un sillon qui est déjà tracé depuis longtemps, à l'avenir, mais sur le même sillon.
Hubert Tempête, à la vôtre.
À vôtre.
Salute à tutti.
Oui, les brunes.
Salute à tutti, il y a un bon goût de châtaigne. Hein. Elle est hyper bonne. Hein.
Il y a un apéro sauvage sur le vieux port. Ah
ben ça, c'est rendez-vous place du marché, ça. Ça, c'est tout nous.
Merci à tutti. Après, je te rends sainte terre. À la réalisation, Benoît Thuot.
À la préparation de Raphaël, plus que va.
À la programmation, Radio Baka.
Merci à Bastia, merci à tous. Demain, vous retrouvez Antoine Ni dans une autre île, en Guadeloupe.
Ah oui. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter.
Merci au Corsica Bar et à Charles, le patron.
Et Forza Bastia.